Hébreux 13, 21. Être conduit par l'Esprit, c'est tout d'abord se laisser convaincre de péché par lui, se laisser purifier corps et âme, se laisser préparer ainsi à être son temple. Le Saint-Esprit ne nous éclaire et ne nous conduit qu'en venant habiter en nous, remplir et sanctifier notre cœur, et notre vie et régner en maître. L'intelligence spirituelle vient du développement de l'homme spirituel, de sa fidélité à vivre de la vie spirituelle. Celui qui veut être conduit par l'Esprit doit consentir à ce que l'Esprit remplisse sa vie tout entière. C'est après avoir été baptisé de l'Esprit et rempli de l'Esprit que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, 1. C'est par le mouvement de l'Esprit qu'il s'en retourna en Galilée Luc 4, 14, et qu'il commença son ministère à Nazareth, en citant cette parole « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Luc 4, 18. Toute direction réclame obéissance. Il est facile de comprendre que pour pouvoir être conduit par l'Esprit, il faut l'écouter avec docilité et obéissance. Ce n'est pas seulement la chair vouée au péché qui fait obstacle à l'Esprit, c'est encore et surtout la chair qui cherche à servir Dieu. L'Écriture nous dit que pour discerner la voix de l'Esprit, il faut dépouiller le vieil homme, ce qui est la circoncision de Christ. Colossiens 2, 11. La volonté et la sagesse de la chair sont à redouter, il faut les crucifier et les renier, il faut fermer l'oreille à toute voix de la chair et de sa sagesse. Dans nos travaux au service de Dieu, qu'il y ait continuellement en nous défiance et reniement du moi, aussi bien que confiance et attente à l'Esprit de Dieu, pour être conduit par lui. L'âme qui attend ainsi de jour en jour et d'heure en heure que la lumière de Dieu lui indique son devoir, recevra certainement lumière et direction. Si donc vous voulez être conduit par l'Esprit, renoncez jour après jour, non seulement à votre volonté et à votre sagesse, mais à votre vie, à votre être tout entier. Le feu descendra du ciel et consumera le sacrifice. Cette direction de l'Esprit est affaire de foi, et ceci de deux manières. Sa lumière commencera à nous éclairer quand nous apprendrons à dire avec confiance le Saint-Esprit, « Est en moi et il fait là son œuvre ». La présence de l'Esprit, en nous est le couronnement de la rédemption, c'est là ce qu'il y a de plus spirituel et de plus impénétrable dans le mystère de la divinité. C'est donc ici plus que jamais que la foi est nécessaire. La foi, c'est la faculté que possède notre âme de reconnaître ce qui est invisible et divin. C'est la foi qui nous fait réfléchir et adorer, qui nous fait prier et nous confier chaque jour de nouveau, qui dispose notre âme à recevoir avec adoration et action de grâce cette parole du Seigneur « Il sera en vous ». Jean 14, 17. C'est la foi qui nous permet de nous dire avec assurance et joie le Saint-Esprit, la vertu de Dieu, habite en moi, et je puis compter sur lui pour me conduire selon qu'il le jugera bon. C'est la parole de Dieu enseignée par l'Esprit de Dieu, qui préserve de toute erreur. Souvenons-nous que toute la parole de Dieu est inspirée par l'Esprit de Dieu, et qu'ainsi c'est ce même Esprit qui doit nous en donner l'interprétation, le Saint-Esprit qui demeure en nous. Ce n'est que l'homme spirituel, dont la vie intérieure est sous la domination de l'Esprit, qui peut discerner le sens spirituel de l'Écriture. Croyons aussi qu'après avoir inspiré la parole de Dieu, l'Esprit veut la faire respecter en nous révélant les trésors de vérité divine qu'elle contient. L'Esprit de prière. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 26, 27. De tout ce qu'opère le Saint-Esprit, c'est son intervention, comme esprit de prière, qui nous fait le mieux comprendre la place qu'il occupe dans l'économie de la grâce et dans le mystère de la Sainte Trinité. C'est au Père que nous adressons nos prières, et c'est lui qui les écoute, c'est au nom du Fils que nous prions. C'est par le Saint-Esprit que nous prions, lui-même priant en nous par des soupirs si inexprimables qu'il faut que Dieu sonde les cœurs pour savoir quelle est la pensée de l'Esprit. L'intercession de l'Esprit, au-dedans de nous est l'œuvre de Dieu, aussi bien que l'intercession du Fils dans le ciel. Quelle merveilleuse lumière les paroles de notre texte jettent sur saint mystère. Dans la vie de foi et de prière, l'action de l'Esprit vient éclairer la parole de Dieu et nous la fait comprendre. Notre foi s'est alors exprimée ce dont elle a besoin et le demandèrent, mais l'action de l'Esprit s'étend plus loin encore, au-delà des pensées et des sentiments, il touche les cordes secrètes de la vie et de l'existence que Dieu seul peut connaître et pénétrer. C'est alors que se manifeste une véritable soif de trouver Dieu lui-même, le Dieu vivant, de connaître ainsi l'amour, qui surpasse toute connaissance et d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. C'est alors qu'on apprend à compter sur celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, qui révèle ces choses qui n'étaient point venues dans l'esprit de l'homme. Éphésiens 3, 20, 1 Corinthiens 2, 9. Quand ces aspirations-là s'emparent de nous, nos prières demandent réellement des choses inexprimables, et ce qui fait notre force alors, c'est de savoir que l'Esprit lui-même intercède, avec ses compassions infinies dans des régions, et avec un langage connu de celui seul qui sonde les cœurs. Souvenons-nous que dans le sanctuaire intime de notre être, dans la région des choses qui ne se peuvent ni concevoir ni exprimer, le Saint-Esprit prie en nous, demandant ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne pouvons pas exprimer. Plus nous saisirons par la foi la divine présence de cet Esprit Saint en nous, plus aussi nous constaterons que la soif, qu'il nous inspire pour les choses d'en haut surpasse toute conception de notre intelligence. Quel privilège n'est-ce que celui d'être le temple d'où le Saint-Esprit crie sans cesse à bas, intercédant par des aspirations trop intimes pour qu'elles puissent s'exprimer par des paroles. Quelle bénédiction de savoir que l'Esprit éternel vient habiter dans notre chair déchue pour nous inciter à nous adresser à Dieu, comme autrefois il habitait dans la chair de Jésus de Nazareth, lorsque le Fils s'entretenait avec le Père. Qui ne voudrait se placer sous la haute direction de cet Esprit divin, et prendre ainsi part à cette grande œuvre d'intercession qui prépare le royaume de Dieu? La voie est ouverte à tous. Laissez le Saint-Esprit prendre entièrement possession de vous. Qu'il vous remplisse de sa présence. Qu'il soit votre vie. Vivez donc de manière à témoigner que pour vous les choses, qui surpassent toute intelligence, vous sont devenues vérité et vie et que l'intercession de l'Esprit fait habituellement partie de votre vie en Christ. Dieu très saint. De nouveau, je me prosterne en ta présence pour t'adorer et te remercier de nous avoir accordé le privilège de la prière. Je te remercie particulièrement des grâces que tu nous accordes non seulement par l'intercession de ton Fils dans les cieux, mais encore par l'intercession de ton Esprit au-dedans de nous. Je te supplie de me montrer tout ce qui l'empêche encore de prendre entièrement possession de moi et de me remplir de l'assurance qu'il est là. Amen. Le Saint-Esprit et la conscience. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Romains 9. La plus grande gloire de Dieu est sa sainteté, c'est en vertu de cette sainteté qu'il est et détruit le mal, qu'il aime et opère le bien. Chez l'homme la conscience agit de même. Elle condamne le péché et approuve ce qui est bien. La conscience est ce qui reste de l'image de Dieu dans l'homme, elle est en lui ce qui approche le plus de la divinité, elle est le gardien de l'honneur de Dieu au milieu des ruines de la chute. Il en résulte que c'est par la conscience que doit toujours commencer en lui toute œuvre de rédemption divine. Le croyant qui désire être rempli du Saint-Esprit et éprouver pleinement les grâces qu'il apporte doit avant tout avoir soin de rendre à la conscience la place et l'honneur qui lui appartiennent. La fidélité à écouter la conscience est le premier pas à faire pour entrer dans la voie qui conduit à la sainteté divine. Aussi toute vraie spiritualité commence par le réveil de la conscience. La conscience est chargée de veiller à nous rendre droit devant Dieu à l'égard du devoir. On peut comparer la conscience à la fenêtre d'une chambre qui laisse entrer la lumière du soleil et qui permet aussi de regarder au dehors et de voir briller tout l'éclat du jour. Dans son œuvre de renouvellement, le Saint-Esprit ne crée pas en nous de nouvelles facultés, il restaure et sanctifie celles qui existent déjà. La conscience est en nous la voix de l'Esprit du Créateur. Et quand cet esprit entre en nous comme l'esprit du Rédempteur, son premier soin est de restaurer ce que le péché avait souillé et gâté. Ce n'est qu'en réveillant la conscience qu'il ramène le croyant à vivre dans la pleine lumière des grâces de Dieu. Ce n'est que lorsque la fenêtre de notre cœur a été nettoyée, ce n'est qu'autant qu'elle est maintenue propre, que nous pouvons marcher dans la lumière. L'action du Saint-Esprit sur la conscience se manifeste de trois manières. Par le moyen de la conscience, l'Esprit fait d'abord briller dans le cœur la lumière de la loi divine. Quand les foudres du Sinaï viennent assillonner le cœur mondain de leurs éclairs, la conscience s'éveille enfin, prête à faire reconnaître et subir la condamnation méritée. Soit loi, soit l'Évangile font appel à la conscience en invitant à la repentance, en donnant la conviction de péché, et il faut que la conscience commence par dire amen à toute accusation de péché et d'incrédulité pour que le pécheur puisse en être affranchi. C'est aussi par le moyen de la conscience que l'Esprit fait briller en nous la lumière du pardon. Quel besoin nous avons du sang de Christ pour laver et purifier notre conscience. Le précieux sang de Christ a été versé pour atteindre la conscience, pour la nettoyer, pour réduire au silence ses accusations et l'amener à témoigner que toute souillure est ôtée. Un cœur purifié d'une mauvaise conscience doit être le privilège de tout croyant. Hébreux 9, 14, 10, 2, 22. La conscience purifiée par le sang de Christ doit se maintenir pure, en obéissant à tout ce que lui signale la lumière divine. Il faut que le croyant puisse en venir à dire avec Paul ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde avec sainteté et pureté devant Dieu. 2 Corinthiens 1, 12. Comparé Actes 23, 1, 24, 16, 2 Timothée 1, 3. La faiblesse de notre foi vient avant tout de ce que notre conscience n'est pas nette. Remarquez comme la conscience et la foi marchent de pair dans les passages suivants. Une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Conservant la foi et une bonne conscience à laquelle quelques-uns ayant renoncé, ils ont fait naufrage en ceux qui regardent la foi. Qu'ils conservent le mystère de la foi avec une conscience pure. 1 Timothée 1, 5, 19, 3, 9. La conscience est le siège naisse de la foi. Si on veut que la foi s'affermisse, si on veut avoir de l'assurance devant Dieu, il faut savoir qu'on fait ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, 21, 22. Jésus a dit très clairement que c'est à ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements qu'est promis le Saint-Esprit, aussi bien que la présence du Père et du Fils. Comment pouvoir dire chaque jour devant Dieu et devant les hommes « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit » Romains 9, 1. Voici la première chose à faire, humiliez-vous, sincèrement à chaque reproche de votre conscience. Souvenez-vous que l'obéissance volontaire aux paroles de Christ est la seule manière de lui montrer votre résolution d'être à lui et de chercher par la grâce de Dieu à avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, 16. Si vous avez la volonté sincère d'être enseigné de Dieu, soyez certain que son esprit vous enseignera. À mesure que vous écouterez avec humilité les reproches de votre conscience, vous acquérez davantage la certitude qu'il est possible d'avoir une conscience sans reproche, car alors le Saint-Esprit viendra témoigner de tout ce que Christ peut et veut faire en vous. Amen. Révélation de l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 4-15. Paul oppose ici l'esprit du monde à l'esprit de Dieu quant à la connaissance de la vérité. C'est la recherche de la connaissance qui causera la chute de l'homme. C'est de l'orgueil venant de la connaissance qu'est sorti le paganisme se disant sage, ils sont devenus fous. Romains 1, 22. C'est dans la sagesse, dans la philosophie et la recherche de la vérité que les Grecs mettaient leur gloire. C'est aussi de la connaissance de la volonté de Dieu que les Juifs se glorifiaient, ayant la règle de la science de la vérité dans la loi. Romains 2, 17-20. Et pourtant quand parut Christ, la sagesse de Dieu, 1 Corinthiens 1, 24, Juifs et Grecs furent d'accord pour le rejeter. Qu'il possède ou non une révélation divine, l'homme est incapable par sa propre sagesse de comprendre Dieu et sa sagesse. Son cœur séparé de Dieu n'aime pas à faire la volonté de Dieu et son esprit obscurci ne peut plus le connaître. Même lorsqu'en Christ parut la lumière de Dieu et son amour divin, les hommes ne virent en lui ni beauté, ni éclat. Ésaïe 53, 2. Dans l'Épître aux Romains, Paul traite de la confiance de l'homme en sa propre justice et de l'insuffisance de celle-ci. Dans son Épître aux Corinthiens, surtout dans les trois premiers chapitres, Paul démontre que toujours l'homme est incapable de saisir la vérité divine sans une lumière venant de Dieu, sans la lumière du Saint-Esprit. Il leur rappelle donc que la vérité de Dieu est un mystère spirituel et qu'ainsi ce n'est que par une révélation spirituelle qu'il est possible de la comprendre. C'est là de nos jours encore ce que chaque croyant a grand besoin d'apprendre et de savoir. À la Réformation, on a reconnu l'insuffisance de la justice de l'homme pour accomplir la loi de Dieu, mais l'insuffisance de la sagesse de l'homme est loin d'avoir été si clairement reconnue. Quoique on admette d'une manière générale qu'il est nécessaire d'être éclairé par le Saint-Esprit, on voit soit par ce que l'Église enseigne, soit par ce qu'est la vie des chrétiens, que cette vérité n'a pas encore acquis l'autorité nécessaire pour réduire au silence la sagesse et l'esprit de ce monde. Apprenons à redouter notre propre sagesse. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. 1 Corinthiens 3, 18. Quand l'Écriture nous dit que ceux qui sont unis à Christ ont crucifié leur chair, elle entend aussi par là l'intelligence, la sagesse charnelle, Galates 5, 24, 2 Corinthiens 1, 12. Quand je crucifie mon moi, je voue à la mort ma bonté, ma force, ma volonté, reconnaissant qu'elles ne valent rien, et je regarde à Christ, pour recevoir de lui bonté, force et volonté. Il faut que je fasse de même quant à ma sagesse. L'intelligence de l'homme est ce qui le rapproche le plus de Dieu, mais le péché s'en est rendu maître et la domine. Un homme peut être sincèrement converti et pourtant ne pas se douter à quel degré c'est, par son intelligence naturelle, qu'il cherche encore à saisir les vérités divines, et si tant de lectures de la Bible, tant d'enseignements bibliques, produit si peu de fruits, quant à la sanctification pratique, c'est parce que la vérité n'a pas été enseignée et reçue par l'intervention efficace du Saint-Esprit. Avons-nous compris? Avons-nous cherché à comprendre que pour pouvoir saisir les vérités divines de la révélation, il faut un esprit divin, qui soit en correspondance directe avec ces vérités? Croyant. Il ne suffit pas que la lumière de Christ brille à vos yeux dans ses paroles, il faut encore que la lumière de l'Esprit rayonne en vous. Chaque fois que vous étudiez la parole, soit directement, soit en lisant quelques livres religieux, il faut que vous fassiez abnégation de votre propre sagesse pour regarder avec foi à l'Esprit de Dieu. Soyez bien convaincus qu'il demeure en vous cherchant à maîtriser et sanctifier votre vie intérieure, à la soumettre entièrement à Jésus. Renoncez à votre propre sagesse pour attendre de Dieu la sagesse qu'il vous promet qu'il vous enverra, et vous pourrez alors témoigner des choses qui n'étaient point venues dans l'esprit de l'homme et que Dieu nous a révélées par son esprit. 1 Corinthiens 2, 9, 10. Amen. Spirituel ou charnel? Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. 1 Corinthiens 3, 1-3. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que Paul, mais en parallèle le croyant devenu spirituel, avec l'homme naturel, non encore régénéré, en d'autres termes l'homme de l'esprit avec l'homme d'âme. 1 Corinthiens 2, 14, 15. Il complète ici ce qu'il voulait dire. Il explique aux Corinthiens que quoi qu'ils eussent l'esprit, ils ne pouvaient pas dire d'eux qu'ils fussent spirituels, parce qu'il ne suffit pas pour l'être d'avoir reçu l'esprit, mais qu'il faut encore le laisser prendre possession du cœur et régler toute la vie. L'homme passe par trois phases successives. L'homme non régénéré, c'est l'homme naturel, qui n'a pas encore reçu l'esprit de Dieu, l'homme régénéré qui est encore un petit enfant en Christ, soit parce qu'il n'est que tout nouvellement converti, soit parce qu'il est resté stationnaire, c'est l'homme charnel, qui subit encore l'influence de la chair, le croyant qui est entièrement sous la domination de l'esprit, c'est l'homme spirituel. Tout ce passage est riche d'enseignements quant à la vie de l'esprit au-dedans de nous. Il est triste de devoir reconnaître qu'un grand nombre de chrétiens restent toujours de petits enfants en Christ, comme les Corinthiens, tandis qu'ils devraient tendre à la perfection et parvenir à l'état d'homme, fait 2 Corinthiens 13, 11, Éphésiens 4, 13. La racine du mal se trouve dans la répugnance des chrétiens à renoncer au moi, à crucifier la chair. À tous Jésus adresse ces mots, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Matthieu 16, 24. L'Esprit n'est envoyé qu'à ceux qui y obéissent, il ne peut faire son œuvre que dans le cœur de ceux qui veulent renoncer au moi et le vouer à la mort. Il est facile de comprendre que la vie charnelle avec ses actes et l'esprit charnel avec ses connaissances réagissent l'un sur l'autre. Tant que nous laissons libre cours à la chair, nous ne pouvons pas recevoir des lumières spirituelles sur la vérité. Nous pourrons connaître tous les mystères et la science de toutes choses, et ne pas avoir la charité, cet amour que l'Esprit communique à notre vie intérieure, tout cela n'est que science qui enflait qui ne sert de rien. Tout chrétien est appelé de Dieu à être un homme spirituel. Le but de la rédemption par Christ était en effet d'ôter tout obstacle à ce que l'Esprit de Dieu pût faire du cœur et de la vie de l'homme une demeure digne du Dieu qui est Esprit. La rédemption ne manqua pas son but. Le Saint-Esprit va inaugurer une nouvelle économie, celle de la vie divine venant demeurer en l'homme avec puissance. La promesse et l'amour du Père, la puissance et la gloire du Fils, la présence de l'Esprit Saint, sur la terre nous sont garants de la possibilité de ce changement. De même que l'homme naturel peut devenir un homme régénéré, l'homme régénéré, mais encore charnel, peut devenir un homme spirituel. Pourquoi donc n'en est-il pas toujours ainsi? Cette question nous ramène au grand et impénétrable mystère de la liberté de l'homme, à la faculté que Dieu lui a laissée d'accepter ou de refuser ses offres, de saisir ou de rejeter la grâce qu'il lui accorde.